RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Joël de Ronay aujourd'hui, ancien chercheur et professeur dans les domaines de la biologie et de l'informatique au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous mêlez ces deux sciences pour envisager nos futurs possibles dans votre dernier livre, La Symphonie du Vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors Joël de Ronay, dans la première partie de l'émission, vous nous avez expliqué que nous avons la capacité de modifier notre corps grâce à l'épigénétique. Avec un peu de connaissances, finalement, nous pouvons en être le chef d'orchestre. C'est comme cela que l'humain a d'ailleurs pu évoluer et que nous sommes devenus si nombreux. Mais j'aimerais vous faire écouter les propos du biologiste Pierre-Henri Gouillon. Il est spécialisé en sciences de l'évolution et quand nous l'avons reçu, il nous a parlé aussi de l'importance que joue la culture dans notre évolution.
Les êtres vivants, au fond, c'est des extraordinaires transmetteurs d'informations et en fait, on montrera comment ils ont été produits même par de l'information et comment des différentes informations génétiques, culturelles, écosystémiques, écologiques, et bien toutes ces informations ont modelé les êtres vivants dans leur ensemble et aussi comment l'évolution a amené progressivement l'information génétique qui est le point de départ en quelque sorte, à lâcher prise en quelque sorte en faveur d'une évolution culturelle. Pas seulement chez les humains en fait, hein, la culture il y en a chez des tas d'espèces.
Mais c'est-à-dire que finalement quoi, le gène, l'ADN se transmet.
L'ADN se transmet et en se transmettant il a progressivement amené la production de tous les êtres vivants. Seulement évidemment ça suppose une adaptation constante par sélection naturelle avec la mutation etc. C'est des processus un tout petit peu compliqués mais enfin on peut les comprendre assez simplement. Et donc, tout ça évolue et doit s'adapter. Et en fait, l'adaptation génétique, c'est un peu long, c'est un peu lourd. Il faut qu'il y ait plein d'individus qui disparaissent parce qu'ils n'étaient pas adaptés. Sauf que si jamais, au lieu de rester comme ça, vous mettez en place un cerveau capable d'élaborer une culture, que ça soit chez des fourmis ou chez des poules, ou chez des chimpanzés, ou éventuellement chez des humains, eh bien, cette culture va être capable de produire des adaptations beaucoup plus vite que l'adaptation génétique. Et donc, l'intérêt de l'information génétique en termes de reproduction, eh ben, c'est de laisser la culture finalement s'adapter au lieu d'avoir à s'adapter elle-même.
Alors, est-ce que c'est pas justement toute la question de l'inné et de l'acquis ? Est-ce finalement notre héritage génétique qui nous détermine ? Ou est-ce que l'essentiel de ce que nous sommes dépend de notre capacité à nous adapter à notre environnement ?
Voilà, il y a évidemment les deux. C'est-à-dire que notre héritage génétique, déjà, c'est lui qui nous permet d'acquérir une culture. Si on n'avait pas le background génétique qui permet de fabriquer un cerveau capable d'absorber une culture et puis de la reproduire, etc., ben, il n'y aurait pas de culture, hein. Donc évidemment qu'il y a une part essentielle du génétique dans le fonctionnement du système, simplement effectivement ce génétique va laisser progressivement dans certaines lignées vivantes le fonctionnement cérébral et la culture prendre tout à sa charge au fond l'adaptation. Chez les humains, il reste un petit peu d'adaptation génétique à des choses, hein. On peut montrer qu'il y a des adaptations génétiques, mais enfin c'est devenu négligeable par rapport à l'immense capacité d'adaptation culturelle, c'est-à-dire que quand il fait froid, bah on met des habits, si on a envie de voler, on fabrique des avions, si on veut aller sous l'eau, on fait des sous-marins, tout ça on peut le faire grâce à notre culture. Si jamais il fallait attendre d'avoir des gènes qui nous permettent d'avoir des ailes pour voler, des branchies pour respirer sous l'eau, etc., ça serait beaucoup trop long, et donc on voit bien comment la culture est beaucoup plus efficace en quelque sorte.
Joël de Ronay, comment réagissez-vous à ces propos de Pierre-Henri
Gouillon ? Je réagis très positivement parce qu'en fait, il faut considérer qu'il y a des gènes culturels, comme il y a des gènes biologiques. Ces gènes culturels, c'est l'idée géniale de Richard Dawkins en 1976, un grand biologiste britannique, qui, comme Waddington, lui, en 1949, a inventé le terme épigénétique. Richard Dawkins a inventé la notion de mème, comparable à des gènes culturels, même ME, accent grave ME. Donc ces mêmes sont des gènes culturels qui sont propagés par la culture, amplifiés de manière virale par les médias, dans Twitter par exemple, ou les journaux, ou la télévision. Et donc ces mêmes culturels jouent le rôle des gènes en biologie, se propagent, se dupliquent, se stockent dans une sorte de ce que j'appelle moi un ADN sociétal. Alors la grande question, c'est où il est caché l'ADN sociétal ? Eh bien l'ADN sociétal, il est dans la constitution d'un pays. Il est dans les statuts d'une entreprise, il est dans le règlement intérieur d'une association, est dans les règles d'un jeu comme le rugby. C'est une forme d'ADN invisible, c'est un ADN parfois numérique, mais il est là. Et la grande question, c'est que si on peut modifier l'expression de nos propres gènes par l'épigénétique, est-ce que l'on peut modifier l'expression des gènes culturels par ce que j'appelle moi l'épimémétique ? La mémétique, c'est une science qui existe. De même que la génétique s'occupe des gènes, la mémétique étudie la transmission des mèmes, c'est-à-dire des gènes culturels dans la société. Alors moi j'ai créé, comme Waddington a créé l'épigénétique, moi j'ai créé le terme de épimémétique pour dire que nous pouvons collectivement participer à la modification de cet ADN sociétal, c'est rien d'autre que la démocratie participative.
Et Internet, la révolution numérique nous aide à cela ?
Complètement. Et les réseaux sociaux, surtout, pas seulement Internet, mais la communication quasi instantanée entre les gens. On l'a vu avec cette affaire de Weinstein, quand il y a eu des mèmes comme Balance ton porc ou des mèmes comme MeToo, c'est comme des gènes. Ça s'est propagé à une vitesse virale dans le monde entier. Et ça a libéré la parole des femmes et ça a même conduit des politiques à modifier des lois, à faire en sorte que le harcèlement sexuel ou bien le harcèlement des femmes dans la rue puisse être réglementé par des lois. Et donc, on voit comment un mème comme MeToo, la réaction sociétale globale et les politiques ont changé l'ADN sociétal.
C'est le principe de la pétition ?
C'est le principe d'une pétition. C'était une pétition, j'allais dire, écrite dans les journaux. Mais avec les réseaux sociaux, la puissance, la démultiplication internationale est beaucoup plus forte qu'une pétition.
Alors vous écrivez que grâce à la révolution numérique, nous avons les capacités de transformation évolutive qui modifient notre représentation de la complexité des sociétés et du monde dans lequel nous vivons.
Oui, d'abord il faut une représentation. Et c'est un peu ce que le choc que nous avons eu quand on a vu la Terre vue de la Lune. Ces premières images qui ont montré la finitude de la Terre, ça a été un choc pour beaucoup.
Qui est l'image la plus échangée dans le monde,
voilà,
paraît-il.
Cette image-là nous a montré la finitude de la Terre en même temps qu'on était tous embarqués sur cette même planète. On était dans la même globalité. Eh bien, je pense que la représentation que nous avons grâce au numérique maintenant, de notre monde numérique d'Internet, permet non seulement de le voir différemment, d'étudier des opinions publiques globales, des réactions comme MeToo, des réactions de gens à des terroristes ou des tyrans totalitaires. Donc non seulement on a une représentation de l'opinion publique, non seulement on a une représentation de ce que Jung appelait la conscience collective, mais on a surtout une possibilité d'agir par les réseaux sociaux.
Oui, après vous nous alertez sur les travers aussi de cette surinformation qui nous inonde et qui peut véhiculer des rumeurs, nous donner une vision aussi tronquée de la réalité.
Exactement, je pense que les fake news par exemple, les rumeurs, alors les rumeurs sont à la fois utiles et dangereuses. Les rumeurs propagées notamment par les tweets de Monsieur Trump, les rumeurs sont une espèce de moyen de régulation sociétale. On a besoin du qu'en dira-t-on, on a besoin de savoir ce que disent les gens. Alors ça paraît très bas de gamme, mais en même temps ça aide les gens à se situer les uns par rapport aux autres. Donc la rumeur, le qu'en dira-t-on, les bruits qui sont maintenant en colportant.
Mais ça peut faire très mal.
Ça peut faire très mal, mais ça peut être aussi utile à la manière dont se représente la société dont vous parliez tout à l'heure. Mais ça peut faire très mal. Un tweet de Trump peut détruire la carrière d'une personnalité politique ou détruire des années de diplomatie entre des pays où, rappelez-vous, les diplomates mettaient des semaines à rédiger des textes pour mettre des chefs d'État d'accord. Monsieur Trump, en deux tweets, il peut ruiner absolument tout ça.
Et il en écrit beaucoup. Et vous parlez donc de disruption. Là aussi, c'est un concept qu'il faut expliquer.
La disruption, c'est le changement, une véritable mutation sur quelque chose qui est considéré comme acquis. Dans les structures d'entreprise, par exemple, l'ubérisation, c'est-à-dire le fait qu'on met l'offre et la demande en permanence sur un écran d'un smartphone très rapidement et on peut, en cliquant, avoir tout de suite le résultat de ce qu'on veut, c'est une disruption des structures traditionnelles, pyramidales, verticales, des entreprises avec toute leur hiérarchie. Donc cette disruption, elle est en train de changer le monde dans lequel on est par la rapidité, on appelle ça le temps réel, et par la relation entre l'offre et la demande en deux clics. Et donc cette disruption, elle est considérée par des entreprises comme celles qu'on appelle GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, notamment qui est en Chine. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ? Ils ont réussi à créer une fine structure, une fine couche humaine et technologique par-dessus des énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts pour se mettre en relation directement avec les gens, c'est-à-dire nous, où se trouve l'argent. Donc ils cassent les coûts. Et ils nous mettent, nous, en fonction de nos soucis et de nos souhaits rapides.
Oui, et donc à partir de là, c'est vrai que ça touche tous les secteurs de l'économie, la banque, l'assurance, la santé.
En Afrique, on va beaucoup plus vite pour s'acheter et se vendre quelque chose grâce à son mobile, en faisant ce qu'on appelle du mobile banking, qu'en Europe. Beaucoup plus vite. Donc l'Afrique est en avance sur l'Europe et même sur le monde dans le mobile banking grâce au téléphone portable.
Alors vous parliez de la représentation du monde que l'on a grâce à cette surinformation. En même temps, elle est un peu biaisée parce qu'on sait que par exemple dans les réseaux sociaux, nous sommes amis qu'avec ceux qui ont les mêmes goûts que nous. Donc les nouvelles qui nous arrivent finalement correspondent à nos aspirations et ça façonne presque notre vision du monde.
Vous avez raison, ça façonne, ça crée des bulles. On est enfermé dans ce petit monde, on se poste des choses les unes pour les uns pour les autres d'une manière un peu égoïste. Mais la génération dite des millennials, c'est-à-dire ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, ils nous apprennent quelque chose de très important. C'est qu'ils nous aident à passer de la société de l'information à la société de la recommandation. Ça, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à l'infobésité ou à l'infopollution. Il y a trop d'informations. Et la difficulté, c'est de la rendre pertinente pour notre travail, pour notre métier, pour notre vie. Eh bien, cette génération-là, grâce aux réseaux sociaux, en passant leur temps à se recommander quelque chose, lit ce livre, il a 5 étoiles, va voir ce film, il est très recommandé, attention, ça c'est des fake news, il nous aide à rendre indirectement l'information pertinente et à surnager dans ce surcroît d'informations, dans cette pléthore informationnelle.
La recommandation serait finalement une sorte de nouvelle monnaie ?
C'est une forme de diététique. La recommandation, c'est comme la diététique de l'information que j'ai appliquée à la diététique de l'alimentation avec mon livre « La malbouffe » que j'ai écrit avec ma femme en 1979. Donc je parlais déjà de la diététique alimentaire, ben maintenant je parle de la diététique de l'information fondée notamment sur la recommandation, le choix, la pertinence.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI en compagnie de Joël de Ronay qui vient de publier La Symphonie du Vivant aux éditions Les Liens qui Libèrent. Dans votre livre, Joël de Ronay, vous dites que nous sommes en train de vivre une révolution, mais il faudrait aller même un peu plus loin que cette révolution. C'est en tout cas l'avis du philosophe Patrick Vivray.
D'une certaine façon, nous avons besoin de faire plus qu'une révolution, de faire ce que Edgar Morin évoque sous le terme de métamorphose, quelque chose à la fois de plus radical, en entendant le mot radical au sens de racine, de plus profond, mais aussi de plus complexe. Et nous avons besoin aussi d'avoir la mémoire des échecs ou des contre-productivités des révolutions antérieures. Quand on se contente de remplacer des anciens despotes par de nouveaux despotes, ce qui a été le problème de la Révolution française, on comprend bien qu'on n'a pas beaucoup avancé. Donc ça veut dire quelque chose de très radical du point de vue de l'exigence transformatrice, mais qui vient complètement changer la nature du rapport au pouvoir, qui ne se contente pas de l'inverser, mais qui en transforme la nature même.
transformer la nature du pouvoir qui nous gouverne. C'est aussi ce dont vous parlez, Joël de Ronay.
Absolument, j'aime beaucoup Patrick Vivray. Depuis très longtemps, j'ai travaillé avec lui dans le groupe des 10. Et en fait, ce qu'il dit, c'est essai-erreur. Il faut savoir s'adapter par essai et par erreur. Donc expérimenter ensemble. C'est l'expérimentation ensemble qui permet de changer d'air. Changer d'air étant le grand thème du forum que chaque année on organise à la Cité des Sciences. L'année dernière, c'était « Au boulot les robots, la vie aux humains ». Cette année, c'est de trouver sa place sur l'éducation. Donc voilà, c'est par un processus de tâtonnement que l'on avance pour aller vers la réalité de notre action sur notre propre environnement et sur notre politique.
Oui, parce qu'il y a urgence quand même, hein, aujourd'hui, d'évoluer, d'avancer pour vivre mieux ensemble.
L'urgence, elle est là, puisqu'on voit les catastrophes qui résultent de maltraitement de la Terre. On le voit avec le réchauffement climatique, bien sûr, mais on le voit aussi, surtout, on ne le dit pas encore suffisamment, dans la pollution. La pollution des villes, la pollution de l'air, la pollution par les diesels, on est en train de faire quelque chose, la pollution par une malbouffe, tout ceci est presque pire que le réchauffement climatique, dans la mesure où ça nous, de manière insidieuse, agit tous les jours sur notre vie.
Et ça joue sur la disparition de la biodiversité.
Ça joue, on l'a vu aussi, sur la reproduction de nos enfants avec les perturbateurs endocriniens. Et évidemment, on le voit aussi avec les épimutations dont je parlais tout à l'heure, les changements qui sont invisibles sur le plan des doses toxiques traditionnelles, mais qui sont beaucoup plus difficiles à voir sur l'expression des gènes.
Alors vous misez beaucoup dans vos différents ouvrages et dans la Symphonie du Vivant à nouveau sur la révolution numérique. Vous dites c'est quand même de là que va venir énormément le changement. En même temps, pour l'instant, on assiste, hein, vous en parliez tout à l'heure, à la création de nouveaux monopoles. Hein, les GAFAMA, là, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba ou Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber sont les nouveaux maîtres du monde.
Ils sont des monopoles numériques. Ils essayent de nous faire en sorte que nous ayons tous les jours de notre vie, devant nos yeux, un écran qui propose leurs services.
Ça marche.
Non seulement ça marche, mais nous, on laisse des informations ces jeux qui revendent à d'autres. Donc on est des contributeurs, en quelque sorte, à la valeur ajoutée du succès de ces entreprises. Alors il y a des voix qui s'élèvent, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. L'Europe a lancé le GPRD, c'est-à-dire le Groupement Général pour la Protection des Données de la Vie Privée, qui a mis 4 ans à être négocié à cause des lobbies, justement, de GAFAMA. En France, un garçon comme Gaspard Koenig, qui dirige Génération Libre, a écrit un livre absolument remarquable sur la manière dont on peut faire en sorte que nos données personnelles ne soient pas prises automatiquement, mais en quelque sorte fassent l'objet d'un échange marchand. Donc c'est en train de bouger. Je pense que la co-régulation citoyenne participative, c'est un grand mot, mais elle utilise les réseaux sociaux, elle utilisera de plus en plus l'intelligence artificielle et le big data pour faire en sorte que nous ayons notre voix au chapitre et qu'on puisse s'exprimer par ce que j'appelle d'une manière un peu humoristique la cyberversion. C'est-à-dire la subversion cybernétique.
Oui, parce que vous dites finalement qu'à l'image des gènes dans notre corps, nous pouvons, chacun au niveau d'Internet, changer la donne, influencer.
Collectivement, les réseaux sociaux sont un moyen puissant dont on a pour le moment un sentiment diffus de notre propre pouvoir. On l'a vu quand même avec l'affaire Weinstein. On va le voir de plus en plus maintenant que les gens commencent à savoir dompter ce mécanisme, à la fois c'est un risque pour les fake news et certains tweets inacceptables, mais en même temps on est en train de prendre conscience de notre pouvoir vis-à-vis des institutions totalitaires, vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis d'idéologies religieuses, et ça c'est une grande force qui est en train de se créer progressivement. On n'y est pas encore, mais on y arrive.
Donc la coopération remplacerait la compétition? Est-ce que c'est ça le défi du XXIe siècle?
Les millennials dont je parlais tout à l'heure, ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, ils sont dans des domaines où ils cherchent plus la coopération internationale, ils cherchent plus la retombée sociétale de ce qu'ils veulent faire. Je connais beaucoup de jeunes qui, pour créer une entreprise, sont plus seulement des start-up faites pour croître et faire du bénéfice et du profit, mais beaucoup d'entre eux veulent faire des start-up qui ont un impact sociétal, qui ont un impact pour aider les gens. Ce que Jeremy Rifkin, dans ses extraordinaires livres, appelle les « collaborative commons », et que Macron, dans son discours de Davos, a appelé les « common goods », les biens communs. Travaillons pour les biens communs. Et beaucoup de jeunes de la génération des millennials cherchent à créer des entreprises pour le bien commun.
Alors, quels sont ces biens communs?
Alors, les grands biens communs, c'est l'éducation, la santé, l'environnement, le numérique, le partage, la solidarité. Tout ceci fait partie des biens communs et nous pouvons aller vers les biens communs et des start-up qui se créent vont dans ce sens aujourd'hui.
Après, vous dites qu'on peut arriver du coup à la naissance d'une conscience mondiale, ce qui pourrait créer une autre citoyenneté, un autre rapport aussi à la politique, à la gestion de nos sociétés.
Alors Jung l'avait bien dit dans ce qu'il appelait la conscience collective. Maintenant, on le voit avec les réseaux numériques. Moi, dans plusieurs de mes livres, déjà dans Le Macroscope en 75 et puis dans L'Homme symbiotique, j'ai parlé d'un cerveau planétaire. J'ai dit que nous sommes un peu les neurones de la Terre et que nous créons un réseau neuronal entre nous, dont Internet n'est que l'embryon, l'écosystème numérique dans lequel se situe Internet et comme le partage de nos cerveaux. Teilhard de Chardin, le père jésuite, avait appelé ça la noosphère, la sphère de l'esprit. Il ne connaissait pas la cybersphère, mais on y est. On connecte nos cerveaux les uns aux autres. Est-ce que ça crée une intelligence collaborative? Est-ce que l'intelligence artificielle va être, moi, ce que j'appelle une intelligence auxiliaire plutôt qu'une intelligence artificielle? Qu'elle va nous aider à développer dans notre cerveau, à augmenter nos propres qualités et aller vers ce que j'appelle l'intelligence humaine augmentée collaborative. Ça, c'est un grand enjeu du futur. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, mais la voie est déjà tracée.
Reste que cette révolution numérique a un immense impact environnemental. Hein, comme nous le rappelle le journaliste Guillaume Pitron, auteur de « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ».
Il faut quand même comprendre que le numérique repose sur un postulat qui est un leurre total. C'est l'idée que parce que nous allons vers le digital, nous allons nous affranchir de la matière. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux de pouvoir envoyer un email plutôt que d'avoir à écrire une lettre sur du papier qui est de la matière physique et de la faire transiter via une voiture qui génère du CO2. Mais en réalité, un email, ça a un coût environnemental considérable, un email. Et toute l'infrastructure, le léviathan numérique qui se trouve derrière un simple email et qui plus est derrière un algorithme, c'est quoi? C'est des millions de milliards de kilomètres de câbles en cuivre. Ce sont des serveurs, ce sont des data centers, ce sont des fusées qui doivent envoyer des satellites et avec des ordinateurs qui doivent calculer la bonne orbite. Et donc, pour pouvoir mettre ces satellites sur la bonne orbite de manière à ce que ces satellites nous renvoient l'information en temps réel et nous géolocalisent sur nos téléphones portables. Et ça, c'est quoi? C'est de la matière physique, ce sont des métaux rares. Et donc, sous couvert de nous affranchir de la matière, eh bien, en réalité, nous sommes retrouvés dans un système qui nécessite le recours exponentiel à toujours plus de métaux rares.
Ça, c'est une sacrée limite, hein, la révolution
numérique. Il a parfaitement raison, il y a deux limites, il y a les matériaux rares et l'énergie. La société du numérique est extraordinairement consommatrice d'énergie. Google est en train d'installer ses serveurs pour les moteurs de recherche sur des barges au milieu de l'eau pour pouvoir les refroidir. Donc, énergie, matériaux rares, c'est vraiment le prix à payer pour la société du numérique et le tout numérique, l'écosystème numérique dans le monde du futur.
Mais quand vous dites le prix à payer, c'est que vous considérez que de toute façon, c'est pas grave, on peut aller plus loin, plus profond
Non, pas du tout, je dis pas que c'est pas grave, je dis qu'au contraire, c'est une des limites, comme la nutrition était une des limites pour nourrir le monde. Donc, la pollution, l'infopollution, l'infobésité, c'est un prix à payer, il faut se nourrir de cela pour pouvoir aller contre avec, je pense que l'intelligence auxiliaire va beaucoup nous y aider, mais est absolument conscient que cette société du numérique, ce n'est pas une société libertaire comme on l'avait cru au départ d'Internet, et en même temps, elle est très coûteuse en énergie et très coûteuse en matériaux.
Mais l'intelligence artificielle dont vous parlez, elle aussi repose finalement sur le numérique?
Bien sûr qu'elle repose sur le numérique, mais avec un moyen de démultiplication tellement puissant que le temps réel de l'intelligence auxiliaire, il est tellement rapide. Et tellement, par exemple, pour lire des publications médicales, il y a 175 000 publications médicales dans un domaine d'une discipline par an, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers par mois. Moi, si je veux les lire, ça va me prendre 5 mois. Le Watson d'IBM, l'intelligence artificielle d'IBM, le fait en 5 secondes. Donc c'est la vitesse qui change les choses. Évidemment, on dépense du temps. Mais ce temps-là va peut-être être utilisé à autre chose, puisqu'on en gagne, on en investit. Je ne vais pas dire gagner, parce qu'on ne gagne pas de temps. On doit tous mourir de toute façon. Mais on peut investir du temps pour se payer des dividendes temporels et être capable d'agir différemment.
C'est pour ça que vous dites les robots au boulot?
La vie aux humains.
Finalement, vous pensez que c'est ça l'avenir?
C'est pas que l'avenir, mais je pense que de plus en plus, nous créons des espèces de robots comme on a des animaux de compagnie autour de nous. On crée une espèce de nouvel être, des êtres numériques, robotisés. D'ailleurs, Ben Soussan, qui est un avocat très, très célèbre et bien connu, propose de donner une personnalité morale, comme il y a des personnalités physiques, de donner une personnalité numérique au robot. Parce que si une voiture autonome qui est un robot tue quelqu'un, qui est-ce qui est responsable? L'assurance, le constructeur? Qui? Donc je pense qu'on va de plus en plus vers une espèce, dans un siècle, et peut-être avant, à la création autour de nous d'une nouvelle espèce vivante, entre guillemets, numérique, que sont les robots, à la fois les algorithmes dans les ordinateurs et des robots physiques anthropomorphes qui nous ressemblent autour de nous.
Il reste à savoir si on aura assez de ressources naturelles pour créer tout ça. Et il y a peut-être aussi quelque chose d'essentiel au-delà de tout cet attrait pour la technologie, c'est l'importance de repenser notre place à nous, l'humain, dans la nature, dans l'écosystème global, avec peut-être un peu d'humilité.
Absolument, de l'humilité, vous avez raison, c'est le grand thème de notre forum Changer d'air du 21 juin à la Cité des Sciences. Ça s'appelle justement « Trouver sa place ». Et « Trouver sa place », c'est à la fois une réflexion personnelle sur à quoi on sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres, et c'est en même temps toute la formation, l'éducation, la formation professionnelle, l'éducation publique et privée. Donc c'est grâce à l'information, grâce à des émissions comme celles que vous faites à l'échelle internationale, grâce à des livres comme ceux que nous écrivons, qu'on peut aider à prendre conscience de son rôle pour changer les choses. Se changer soi-même avec l'épigénétique et se changer collectivement avec l'épimémétique, qui est la possibilité de modifier les gènes de l'ADN sociétal, qui est en fait la démocratie participative. Donc il y a de l'espoir, c'est ce que j'essaye de dire dans mon livre. J'essaye d'avoir une attitude positive et de montrer l'espoir plutôt que les catastrophes permanentes.
Voilà, c'est ce que j'avais dit au début de l'émission, finalement. Une leçon d'optimisme avec le professeur Joël de Ronay. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie, c'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre application Pure Radio ou sur le site de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.